Je fais des cours sur l'histoire très récente de la France, sur l'histoire raciale. Ben, mes cours, ils sont toujours remplis, ils refusent du monde parce que les étudiants, Verlaine, les macarons, ça va 2 secondes. Il y a un moment, ils ont envie de comprendre. Mais qu'est-ce que Macron dit? Mais pourquoi la France a brûlé en 2005? Mais c'est qui cette nana en afro qu'on a vue dans le Times? Ils ont envie de comprendre la France de 2020. Et pas la France qu'on leur a vendue parce qu'ils ont compris qu'il y avait une carotte.
Bonjour tout le monde, je suis Kevin Donat et vous écoutez le Paris Noir Podcast. Je suis guide conférencier et depuis 2013, j'anime les balades du Paris Noir. Un ensemble de circuits qui retrace les parcours de grandes personnalités venues du monde noir et passées par Paris. Une façon différente d'envisager la présence afro-descendante dans l'Hexagone à travers leurs accomplissements, leurs rencontres et leurs doutes. Entre novembre et fin 2020, j'ai enregistré une série d'entretiens avec des hommes et des femmes au parcours remarquable. Ils et elles ont joué le jeu, répondu à mes questions étranges, suivi mes intuitions bizarres qui se transforment en obsessions. Pour l'instant, tout se fait en indépendant et à distance, le son de ma voix n'est donc pas toujours optimal, mais je dirais que c'est ce qui ajoute un côté intime aux épisodes. On a parfois l'impression d'écouter une conversation Skype entre deux potes. On arrive à la fin du Black History Month, ou mois de l'histoire noire, et pour l'occasion, j'avais envie de vous parler d'études postcoloniales. Nicolas Bancel, professeur à l'Université de Lausanne, affirme que ses études poursuivent les théories et les débats anticoloniaux formés pendant la période coloniale. Ce courant intellectuel entend relire l'histoire coloniale en articulant une critique de la domination concrète, l'exploitation des ressources par exemple, avec une critique d'une domination culturelle et psychique des sociétés dominées et individus colonisés. Pas très simple tout ça. Pour y voir plus clair, j'ai eu le privilège de discuter avec Mamfatou Niang. Mamfatou enseigne la littérature française et francophone à Carnegie Mellon, une fac d'excellence à Pittsburgh. Elle se réclame des études postcoloniales. En 2016, elle a réalisé Marianne Noire, un documentaire qui donne la parole à 7 femmes françaises qui racontent la condition noire au féminin. Ici, Bintou Dembélé, danseuse et chorégraphe.
Si je pouvais me parler à 12 ans, je me dirais... continue à rêver. Va au bout de tes rêves. Continue à être fier de toi et dis aux gens comment t'aimes ta couleur de peau en fait. Essaye de ne pas être en colère. Essaye de partir du fait que les gens sont ignorants et parle-leur de toi en fait. Et ceux qui ne peuvent pas entendre, ben, laisse-les. Te justifie pas en fait. Et puis t'auras un avenir de ouf. T'inquiète pas, t'auras un avenir de ouf.
Voilà. La race, le genre, les rapports nord-sud sont au cœur de son travail. Elle est sans concession sur la question des violences policières. Vous devez écouter cette conversation parce qu'elle a un parcours atypique. On a abordé entre autres l'image de la France à l'étranger, la question des discriminations positives, les mobilisations de 2020 et même le mot anglo-saxon. C'est donc la première partie d'un double entretien. La suite arrive bientôt. Bonne écoute. Et on se retrouve en fin d'épisode.
Bonjour Mamfatou, bienvenue au Paris Noir Podcast. Peux-tu te présenter en quelques mots pour nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît ?
Bonjour Kevin et merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je m'appelle Mamfatou Niang. Je suis franco-sénégalaise. Je suis enseignante-chercheur, donc spécialisée dans les populations noires d'Europe et plus spécialement dans les questions afro-françaises. Je suis aussi réalisatrice, j'ai fait un film, co-réalisé un film en 2015 avec une étudiante à moi, Katie Nielsen, un film qui s'appelle Marianne Noire, sur le parcours de cette amie, Maboula Soumaoro, Alice Diop, Bintou, etc. Je suis aussi photographe et donc voilà, mes activités.
Plein de cordes à ton arc, plein de casquettes différentes. Tu es notamment donc chercheuse à la prestigieuse université Carnegie Mellon à Pittsburgh. Ça fait des années qu'on se suit sur les réseaux et je suis ravi de t'avoir dans le podcast. Moi, j'ai découvert ton travail par ce que tu disais par le documentaire Marianne Noire. On en parlera un petit peu plus tard. Mais d'abord, qu'est-ce qui t'a mené vers une carrière universitaire? Et ensuite, pourquoi cette matière, la littérature française et francophone.
J'ai eu un parcours qui a été assez direct, assez voilà, j'ai fait les choses comme il fallait, collège, lycée, j'ai fait une classe prépa et je me préparais à faire un doctorat sur un sujet des plus classiques qui était sur Virginia Woolf. Et j'ai eu la chance, il y a eu comme ça un accident dans la vie, moi je trouve pas d'autres mots, où j'ai dû aller passer un semestre aux États-Unis à l'université Brown, et ce semestre allait changer ma vie. Donc je pars avec mon sujet de recherche sous le bras, et j'arrive, et le premier jour en classe, lorsque la prof découvre, donc c'est une prof qui s'appelait Trika Rose, qui a écrit la première thèse sur le hip-hop, elle est devenue absolument centrale dans ma vie, une très très bonne amie, et lorsqu'elle découvre que je viens de France, elle me dit, dans le module de lecture, on va lire Peau noire, masque blanc, vu que tu es française, tu liras Fanon. Et donc moi je dis oui, parce que je veux pas paraître impolie ou débile, mais je ne sais pas qui est Fanon. Donc je vais prendre ce cours où je vais découvrir, dès le premier mois, Césaire, Condé, Glissant, Fanon, toutes ces personnes qui, noires et français, qui ont parlé de ce que c'était d'être noir et qui l'ont écrit en français. Et donc là, je commence à me poser des questions, pourquoi je ne connaissais pas ces personnes. Et puis tout, voilà, moi qui avais quand même une grosse, grosse passion, parce que pendant très longtemps, j'ai hésité entre l'histoire et la littérature, une grosse passion pour la Troisième République, par exemple, me rendre compte que ces grands hommes-là qui avaient fait la Troisième République étaient aussi ceux qui, voilà, avaient construit cette idée de l'identité nationale tout en cachant, voilà, l'envers de ce miroir-là. Et puis, donc voilà, j'ai changé mon sujet de recherche. J'ai écrit un mémoire sur le rire noir, l'importance du rire, de la circulation du rire dans l'espace de la diaspora noire. Et je suis revenue à la littérature française, parce que pour moi, lorsqu'on pense à la manière dont l'identité se construit, et surtout dans un pays comme la France, qui a mis la culture au centre quand même de sa définition de ce qu'est la France, de ce qu'est l'identité française, on ne peut pas la penser sans la littérature, sans la langue. Et c'est à travers la littérature qu'on va dire ce qui est français, ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que le canon ? Et donc moi, j'ai commencé à me poser des questions. Comment ça se fait que des écrivains qui étaient, je ne sais pas, d'origine irlandaise, roumaine, puissent être, ou même américaine, puissent être adoptés très très facilement dans le canon français, au point même que l'on oublie leur origine première, alors que des gens comme moi, qui font partie de ce pays depuis une, deux, trois, voire même beaucoup plus longtemps, vont toujours rester à la périphérie. Donc voilà, j'ai décidé de bifurquer un peu dans mes études, mais tout en restant quand même, voilà, dans ce thème-là, prendre la littérature comme métaphore de notre espace national. Comment est-ce qu'on crée de l'identité, comment est-ce qu'on crée de la nation, comment est-ce qu'on crée du nous, et en créant du nous, comment est-ce qu'on crée du eux. Voilà.
Donc tu es maître de conférence en littérature française et littérature francophone. Pourquoi cette opposition, séparation français-francophone ? Est-ce que c'est un euphémisme ? Est-ce que c'est une peur de nommer les choses ?
Alors, en ce moment, je suis engagée dans des grands efforts auprès de mon université pour changer cette dénomination. C'est le titre qui m'a été donné lorsque je suis arrivée, parce que c'est le nom de mon département. Donc, c'est un programme d'études françaises et francophones. Et c'est une dénomination qui est au centre de débats très âpres outre-Atlantique, aux États-Unis, et puis aussi un tout petit peu au Canada et en Angleterre. Le fait de se dire, voilà, est-ce qu'on doit parler d'études françaises, est-ce qu'on doit parler d'études francophones, est-ce qu'on doit parler d'études en français, et que le fait de dire, voilà, comme tu as dit, de parler d'études françaises et francophones, ça renforcer ce schéma qu'on a assez souvent d'avoir des études hexagonales, que ce soit sur la culture ou sur la littérature, des études hexagonales qui sont placées au centre de nos recherches, et tout ce qui touche au monde francophone, que ce soit l'Afrique, l'Océanie, etc., qui soit considéré comme des satellites comme ça, pas vraiment très sérieux, mais des satellites qui dépendent de ce centre culturel que serait la France. Donc moi, je suis au centre d'un projet pour que notre département soit renommé, que ce soit un département d'études en français. Et voilà.
Ok, c'est complet. C'est souvent depuis les départements de littérature des universités nord-américaines que se développent et rayonnent les études postcoloniales. Tu t'en réclames, si je comprends bien. Peux-tu me donner une définition ou ta définition des études postcoloniales et nous dire pourquoi c'est aussi mal compris en France ?
Bah, pour avant de répondre à la première question très très rapidement, moi aujourd'hui j'ai à peu près une trentaine, quarantaine d'amis qui sont directeurs de recherche, enseignants chercheurs dans des universités extrêmement prestigieuses aux États-Unis et qui sont presque tous, mais vraiment, j'en compte une quarantaine à l'exception de deux personnes qui sont absolument tous partis comme étudiants d'échange aux États-Unis et qui sont restés et qui sont partie souvent dans les mêmes conditions que moi, en travaillant sur la science politique, la littérature française, et qui arrive aux États-Unis, on se rend compte que c'est vraiment au-delà des conditions de travail, c'est juste la possibilité de pouvoir travailler sur des questions qui, à l'époque, moi je suis partie en 2006, étaient absolument impossibles à étudier dans des départements de littérature française. Donc, moi, je le vois, par exemple, les personnes que je connais qui sont de ma génération, qui ont travaillé sur ces questions à partir du milieu des années 2000, le faisaient depuis des départements de littérature anglaise ou anglophone. C'était absolument impossible de poser ces questions dans des départements de littérature française. Absolument impossible. Donc, les États-Unis ont fourni le moyen, les États-Unis ont fourni les cadres. Et ça, c'est vraiment une question que la France devra se poser, si l'intérêt y est. Comment est-ce qu'on peut se permettre de perdre autant, d'avoir perdu des générations entières? Moi, je peux vous citer, là, ouais, 40 noms de chercheurs qui sont partis. Et puis, pour répondre à la deuxième question, les études postcoloniales, oui, parce que, voilà, moi j'arrive en ayant fait 2 années de classe prépa, je commence un doctorat, donc j'ai quand même, en grandissant comme ça, avec une grande passion pour la littérature, pour l'histoire, pendant très longtemps, je me suis interrogée sur le chemin que j'allais suivre, en pensant être incollable sur la Troisième République, en pensant être incollable sur l'histoire de France. Donc, pendant très longtemps, moi, je me suis posé beaucoup de questions sur mon orientation, parce que j'aimais l'histoire, j'aimais la littérature, je pensais être incollable sur la Troisième République. Et là, aux États-Unis, je découvre toute cette histoire, tout l'envers, toute l'histoire coloniale, toute l'histoire de l'esclavage. Et pour moi, je me rappelle vraiment cette impression de passer de l'autre côté du miroir. Et pas une trahison, parce que je ne m'attendais pas à beaucoup de choses, je me dis, mais comment est-ce que c'est possible que je ne connaissais pas toutes ces choses, que je n'ai jamais entendu parler de mai 67 en Guadeloupe, que je ne savais. Et donc voilà, je pense que ça a été vraiment pour moi extrêmement important, et me dire, je ne sais pas combien de temps durera mon amour pour les études postcoloniales, là je parle de ma position en 2006, mais pour l'instant, ce sujet me permettait d'approcher ces questions que je découvrais, que je dévorais, et voilà, l'aventure ne s'est pas arrêtée, ça fait 14 ans que ça dure.
Est-ce que tu t'expliques pourquoi c'est aussi mal compris en France ?
Bah, ce n'est pas mal compris, c'est juste que ce n'est pas accepté. Et je pense qu'on aura l'opportunité de parler de l'année 2020, qui pour beaucoup a été un révélateur. Moi personnellement, je n'ai rien appris de nouveau, mais je pense que cette année a été vraiment un révélateur de la manière dont, au plus haut sommet de l'État, je parle du président, du ministre de l'Éducation nationale, on formait véritablement bloc pour défendre une certaine vision de la France, une certaine vision de l'identité de la France et une certaine vision de ce qu'est l'histoire de la France. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de l'importance de la littérature pour faire identité. Bah, je ne sais pas si une espèce, on connaît de l'espèce qui se promène avec 2 colonnes vertébrales, mais la 2e colonne vertébrale de la France en tant qu'espèce, ce serait l'histoire. Et on sait ce que... comment est-ce que l'écriture de notre histoire nationale a été assurée à dessein, parce que comme le disait Ernest Renan, faire nation, c'est se rappeler d'une histoire commune, d'une grande histoire commune qui nous permette de nous sentir proches les uns des autres, mais il est tout aussi, ce dont on se rappelle est tout aussi important, ce qu'on oublie, ce qu'on peut oublier est tout aussi important, sinon voire plus important que ce dont on se rappelle. Et donc on voit à un moment qu'il y a eu une volonté manifeste, une volonté sur plusieurs siècles d'oublier certains détails de notre histoire qui en fait n'en sont pas, et qu'aujourd'hui on assiste un peu à l'effet boomerang, c'est-à-dire des personnes comme moi, comme toi, qui sont le fruit de cette histoire-là, et dont la présence sur le territoire national, je parle de l'Hexagone comme des Outre-mer, n'est pas comprise. Les gens ne comprennent pas pourquoi moi, en tant que Sénégalaise, je parle bien le français. Eh bien, le Sénégal est entré dans l'histoire de France en 1639. Et donc, voilà, il y a cette ces deux, moi je compare ça un peu à un combat de deux taureaux. Il y a ces deux visions qui se rencontrent depuis très très longtemps, mais l'année 2020 était vraiment révélateur entre d'un côté le désir de vouloir maintenir des mythes républicains, une espèce de parlure républicaine, une espèce de parlure universaliste, on dit. Et ça se fait, on dit liberté, égalité, fraternité, ça se fait. Et d'un autre, le désir de certaines personnes qui vivent une histoire assurée, qui sont le résultat d'une histoire inachevée, incomplète, qui n'est pas dite, qui vivent une identité en trait et qui ont envie que toutes les histoires de France soient révélées. Et donc voilà, là c'est le combat des titans qui a été révélé en 2020.
On va prendre le temps juste après de parler de ce qu'il y a d'historique dans les mobilisations de 2020, mais j'avais juste une dernière question sur la question du champ des études postcoloniales. Je me permets un petit peu de m'arrêter là-dessus. C'est en fait, moi, ce que je trouve très surprenant, c'est que parmi les principales sources d'inspiration, on cite souvent ce qu'ils appellent aux États-Unis, en Angleterre, la French Theory. On va trouver du Foucault, Derrida, Simone de Beauvoir, voire Fanon. On aurait pu imaginer que ça prenne mieux, que ce champ d'études perce davantage en France, au moins dans le monde universitaire français. Oui.
Très très bonne remarque. Moi, j'arrive à Brown et exactement, je tombe sur des théoriciens français très reconnus et en même temps beaucoup plus connus aux États-Unis qu'ils le sont ici. Ben oui, Foucault, Derrida, qui ont théorisé ces théories de la domination. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Et là, ça nous ramène sur l'idée de l'importation. Et pour moi, cette idée de l'importation, de l'antifrancité, elle est absolument essentielle si on veut comprendre pourquoi est-ce que les études postcoloniales non seulement ont du mal à se développer en France au niveau universitaire, mais le retard qu'elles ont pu accuser par rapport à ce qui se fait en Angleterre, en Allemagne, en Suisse ou aux États-Unis. Ben, c'est juste le fait, on va décider que ce n'est pas républicain, c'est anti-français. Non seulement c'est anti-français, mais c'est dangereux pour la France parce que c'est un discours communautariste, c'est un discours malade, c'est un discours pathologique qui va venir contaminer, éclater, séparer. Voilà, les accusations de séparatisme, notre mythe républicain qui est un. Lorsqu'on dit que l'identité française, elle est une et indivisible, elle est une et indivisible, on ne peut pas être français et noir ou français et musulman, etc. Donc moi, je pense que vraiment, à la base de la faiblesse des études postcoloniales dans le monde universitaire, il y a cette main de fer que notre idéologie républicaine, que l'idéologie étatique, exerce cette emprise qu'elle exerce sur le monde de la recherche. Mais on le voit, mais même avec cette emprise, ça fait 15-20 ans que ces questions se développe de manière détournée, se développe par des chercheurs qui ont pris le truc et qui le lâcheront plus. Et aujourd'hui, juste pour terminer sur ça, moi je suis extrêmement heureuse parce que ça fait à peu près 10 ans que je suis des étudiants en master et des étudiants en doctorat et français, et ça se terminait toujours de la même façon. Ils me contactaient et puis 2 ans plus tard, docteur Jean, est-ce que vous pouvez nous écrire une lettre de recommandation? Et ils terminaient aux États-Unis. Et je pense que ça fait 2 ans maintenant que j'ai plus d'étudiants qui sont en France que je suis qui sont en France que des clients aux États-Unis. Donc ça dit aussi quelque chose, que même si on voit des résistances, des réticences de la France, il y a quelque chose qui se développe, et qui se développe au point que des étudiants, des chercheurs, des futurs chercheurs sur ces questions-là décident qu'ils vont rester en France, travailler sur un master, travailler sur une thèse depuis la France. Et ça, c'est important. Pour moi, c'est important.
À ton échelle, est-ce que tu peux me raconter comment tu as vu se manifester ces frictions qu'on a dans le monde de la recherche en France sur ces questions? Est-ce que tu as une anecdote qui peut un peu nous expliquer?
Pour moi, là, j'ai deux anecdotes. La première, c'est la réaction de mon université française en 2006, lorsque je leur annonce que je vais finalement, les 6 mois aux États-Unis vont se transformer en doctorat, et vraiment l'horreur ils se disaient, mais tu vas gaspiller ton intelligence, ne fais pas ça, c'est un piège, le piège de la race n'existe pas. Donc voilà, ça, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est un piège. Ne tombe pas dans ce piège. Les États-Unis sont un pays malade de la race. Et tout, pourquoi tu veux t'engager dans cette folie, dans cette maladie? Et donc, ce rejet de ces questions-là, pourquoi quitter Virginia Woolf, voilà, quitter un futur brillant qui t'est promis dans une université française où tu peux travailler sur un sujet respecté pour aller travailler sur toi? Parce que ça aussi, c'était une question importante. Pourquoi travailler sur toi? Ce n'est pas considéré comme très académique, comme très scientifique de travailler sur soi, surtout quand soi est encore féminin, est encore racisé. Donc voilà, je me faisais dégringoler moi-même de ce pédestal que j'avais créé. Donc voilà, ça c'est une anecdote. Et la deuxième qui rejoint un peu la première pour moi, c'est la lecture d'un livre qui pour moi est fondamental que je recommande, c'est Le Triangle et l'Hexagone de Maboula Soumaoro. Et ben ce livre, c'est la réponse à toutes ces questions-là. C'est l'odyssée d'une femme noire, d'une jeune fille noire qui dit qu'elle va faire des études et toutes les barrières possibles et imaginables seront mises sur son chemin. Tu es pauvre, tu es noire, fais un CAPES, ça ira quand même bien, c'est déjà pas mal pour des écoles. Ben non, moi je veux pas être prof des écoles, elle va répondre, moi je veux être prof d'université. Donc toutes les barrières, et c'est vraiment un décompte assez, assez complet des pièges que l'université française va mettre sur le chemin de chercheurs, surtout racisés et chercheuses qui vont se lancer sur ce chemin. Et pour moi, ce que je l'ai lu plusieurs fois et je me dis toujours la même chose en le lisant, mon Dieu, que ça a été dur, que ça a été dur. Et pour une qui s'en est sortie, combien n'ont jamais défendu de thèse, combien sont devenus fous, combien sont... Voilà, je me pose... Ça, c'est dur.
Sortons un peu de l'académie pour parler des mobilisations sociales. Tu t'es beaucoup exprimé, engagé sur le sujet. Récemment, tu as publié un article chez Jacobin Magazine, un média socialiste américain, et le mot socialiste aux États-Unis, toi-même tu sais. They want to take your pickup truck. They want to rebuild your home. They want to take away your hamburgers. This is what Stalin dreamt about, but never achieved. What? Dans cet article, tu critiques le discours politique dominant en France qui a du mal à qualifier son racisme. En ce moment, il y a un nouveau beef entre la France et les médias, ouvrez les guillemets, anglo-saxons. Comment tu l'expliques, cet affrontement?
Le beef, il est assez facile. C'est que pendant très très longtemps, la France a été assez, assez forte en soft diplomatie, c'est-à-dire créer une image d'elle-même. Moi, je le faisais souvent quand j'étais, parce que j'enseigne moins des petites classes maintenant, mais quand j'étais doctorante, lorsque j'enseignais, le premier jour, je disais toujours à mes petites classes, je vais vous dire un mot et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Et le mot, c'était France. Et alors, 90% de la classe, c'était Paris, et puis le reste, c'était fromage, Champs-Élysées, etc. Et bien sûr, et les mots changeaient après un semestre avec moi. Mais bon, c'est juste pour dire, voilà, la France a été extrêmement forte par son cinéma, par la force de sa puissance culturelle, pour exporter une certaine image d'elle-même, le luxe, Chanel, etc. D'accord ? Et cette image, elle a été aussi confortée par Hollywood, etc. Et ce qui se passe, c'est que tant que le New York Times, tant que Washington Post, tant que tous ces médias-là parlaient de Macron ou des macarons, parlaient de, je ne sais pas, d'Amélie Poulain, de ça allait. Et puis de temps en temps, on va parler un peu des Gilets jaunes, mais pas trop. Donc tant qu'ils parlaient de cette image-là, de Paris, voilà, et puis un peu peut-être de Nice, Cannes, etc., ça allait. Et puis, il y a un moment, ces médias se sont dit, on a envie de comprendre pourquoi la France a brûlé en 2005, on a envie de comprendre, mais c'est quoi cette femme qui parle de son frère qui est tué et qui lâche pas le truc, qui lâche pas l'autre, qui lâche pas. Et c'est une image dont les Américains n'étaient pas, que les Américains n'étaient pas habitués. Moi, je le vois avec mon film Marianne Noire, qui a été diffusé, j'ai accompagné le film sur près de 50 diffusions aux États-Unis, et la bouche des gens, quand ils se rendent compte, le pire, c'est les Africains-Américains qui, on le sait, ont cette image de Paris comme un lieu de libération. Voilà, c'est vraiment une légende, le End in Paris, pas une rigolade, c'est vraiment la légende qui nous vient des années 20, 30, Richard Wright, etc. Paris, c'est le lieu de libération pour les Noirs. Et quand ils se rendent compte que, wow, donc il y a eu ça, et je pense que c'est de là que vient le beef, parce qu'il y a cette image de la France qui a été construite sur 3 siècles, 4 siècles, qui est maintenue par la force de notre diplomatie culturelle. Si on voit les instituts français, c'est vraiment, voilà, faut vraiment prendre une brochure des instituts français ou des programmes des consulats français à l'étranger, c'est une certaine culture très parisienne, très blanche. Et donc là, ce qui se passe, c'est que voilà, il y a le the cat is out of the bag, le chat qui est sorti du sac. Et ça, ça fait mal.
Ok. J'ai une marotte depuis quelques mois, depuis même quelques années. C'est le mot anglo-saxon qui est devenu une obsession. Je t'explique moment d'histoire personnelle, en fait. Donc voilà, je suis guide et j'ai beaucoup travaillé avec des étudiants d'université américaine qui viennent faire des échanges à Paris. Et un jour, je leur explique quelque chose et je leur dis en anglais, chez vous, dans les pays anglo-saxons, Anglo-Saxon countries, et tout le monde me regarde complètement perplexe en disant quoi, les pays anglo-saxons, qu'est-ce que c'est? Et je dis, c'est ce que nous, on dit en France pour parler de l'Australie, des États-Unis, de l'Angleterre, enfin de vous, quoi. Et le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est déjà, nous, on n'est dans aucun groupe de pays, on est les États-Unis. Yeah. Et pays anglo-saxons, ça n'a aucune réalité. Les personnes peuvent être anglo-saxons, mais ils ne se considèrent pas comme vivant dans un pays anglo-saxon. Et nous, en France, à chaque fois qu'on utilise le mot anglo-saxon, notamment ces dernières semaines, ces derniers mois, lorsqu'il y a des critiques qui s'adressent à la France, c'est pour dire les anglo-saxons nous regardent mal, etc., etc. Est-ce que tu emploies ce mot et est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce que je me sens un peu seul lorsque je parle de ça.
Ah, mais absolument. Moi, c'est un terme que j'ai utilisé, je pense, pendant une semaine, en 2006. À mon arrivée aux États-Unis, et j'ai très vite compris en étant dans un cours avec donc Tricker Rose, qui était une chercheure, un universitaire de premier ordre, mais aussi, j'aime pas le mot militante, mais elle m'a dit, je comprends que tu viens de France et je te donne quelques jours pour drop the term. Et c'est je pense que ça a été l'un de mes premiers chocs culturel aux États-Unis. Le fait de se dire, mais c'est pas possible, il y a des mots qu'on utilise comme ça en France et qui ici. Après, c'était vraiment aussi ce cours-là où parce que je voyais que je n'étais pas la seule étudiante et que d'autres étudiants américains qui venaient de New York, qui venaient, prenaient étaient en train de faire la même initiation que moi. Et elle nous a parlé de l'histoire de ce terme, donc il y a un terme qui remonte au 18 ou au 19e siècle, et qui est un terme aujourd'hui qui, aux États-Unis, est absolument un terme lié à la cause des suprémacistes blancs, et qui est là pour créer une certaine histoire des États-Unis au sein de l'histoire de l'Empire anglais et de ses confettis, de ce qui en a découlé, et qui est une histoire qui est là pour recréer, remodeler, tout en effaçant l'apport qui a pu être celui de l'apport qu'on sait. Donc moi, c'est un terme que j'ai arrêté d'utiliser, je crois, il y a 14 ans, et je me cogne la tête à chaque fois que je vois que c'est utilisé dans les médias français en 2020. Ça ne veut absolument rien dire. Anglo-saxon, c'est pour ne pas dire blanc, et surtout blanc quand c'était très bien, c'est-à-dire quand c'était les plantations et les Noirs faisaient ce qu'on leur disait, les Indiens étaient éradiqués, décimés, et le peu qui restait plongé dans leur bouteille d'alcool. Voilà, blanc, c'est anglo-saxon, c'est ça. Et donc je me bats beaucoup pour que le terme ne soit plus utilisé.
Okay. Intéressant, parce que quand tu cherches sur Wikipédia, il y a un article français qui s'appelle Monde anglo-saxon, et si tu cliques pour la version en anglais, c'est Anglosphere, l'anglosphère.
Waouh.
Tu parles d'antiracisme 2.0 et tu dis que les mobilisations de 2020 ont été historiques. Pourquoi ?
Elles ont été historiques parce que historiques pour beaucoup de raisons, par rapport à l'ampleur des manifestations, par rapport à leur visibilité, et par rapport au fait qu'elles ont enfin réussi à quitter le petit monde des personnes qui vivaient ces manifestations, qui les faisaient vivre depuis. Moi, je suis de la banlieue lyonnaise. J'ai grandi avec les grands frères qui avaient fait la marche pour l'égalité, avec les grands frères qui allaient gratter avec Rachida dans carte de séjour. Donc c'est la question de ces mobilisations racistes là, pour moi, c'est quelque chose qui a traversé ma vie. Il n'y a rien de nouveau. Les questions de mobilisation contre les violences policières, il n'y a absolument rien de nouveau. Mais ce qui est historique, c'est que ça a réussi à franchir les périphes, ça a réussi à franchir surtout ce que j'appelle le périphérique mental, c'est-à-dire les barrières mentales que les gens se disaient en disant « je ne veux pas voir, je ne veux pas en parler ». Donc là, ça a été visible, on a été obligé de le voir à la télé, ça a été non-stop à la télé, et surtout les gens étaient obligés d'en parler. Surtout ce qu'ils disaient, par exemple, je peux citer des noms, Blanquer, Macron, ceux qui disaient « voilà, on va parler des mobilisations contre les violences policières, mais pour condamner ce qui se passe aux États-Unis, non mais regardez, George Floyd, c'est quand même terrible ». Et donc cette façon que la France a de mettre la longue vue sur le jardin du voisin et dire « ah quand même, hein, et puis voilà, on va faire une statue à George Floyd dans les jardins de l'Élysée » et pour ne pas prendre le miroir et se regarder et se dire qu'on a nos propres George Floyd ici. Donc pour moi c'est ça le côté historique, c'est qu'on a vraiment ce bandeau que la République a toujours voulu se mettre sur les yeux et dire je ne vois pas parce qu'il n'y a rien à voir. L'égalité est là parce qu'on a dit l'égalité. Donc ce pouvoir performatif des mots qui ne marche pas pour une catégorie de la population, on a été obligé de dire et on a été obligé de voir alors qu'on ne voulait pas voir, on ne voulait pas dire. Et voilà, il y a une génération dont je fais partie, dont tu fais partie, dont d'autres font partie, qui a dit maintenant on va arrêter avec l'invisibilisation, vous allez voir, on va arrêter avec la silenciation, vous allez entendre. Et ça, pour moi, ça c'est historique. Pas ce qu'on dénonçait, c'est pas ça qui est historique. C'est le fait que la France ait été mise au pied du mur et qu'elle était obligée de... Après, les réactions, elles ont été ce que ça a été. Le déni, l'agression, le retournement du stigmate, mais au moins... Et pour moi, c'est une chose qui est extrêmement importante. Je le dis toujours, la pire chose, c'est d'être ignoré. Parce que c'est voilà. Moi, je préfère qu'on me crache dessus, qu'on m'ignore. Donc là, au moins, voilà, c'est la question a dû être prise en compte.
La répression aussi, si, mais il y avait un côté historique dans l'ampleur des mobilisations. La répression a été assez historique également. Les images de l'interpellation de Michel Zecler ont beaucoup choqué, même si toi, tu dis que tu n'as rien appris de nouveau. Mais le tout s'est passé dans un contexte assez liberticide, la loi sécurité globale.
Absolument, absolument.
Tu es intervenu sur Mediapart pour parler des violences policières en France et tu as rappelé les origines racistes de la police française. Peux-tu m'en dire quelques mots, s'il te plaît ?
Ben absolument, parce que moi, je trouvais dingue que les gens prennent 2018 comme en zéro, année zéro, des violences policières en France, en se disant, ah, finalement, voilà, avec les gilets jaunes, ben non, les gilets jaunes, le problème, c'est qu'avec les gilets jaunes, cette violence-là qui s'exerçait en périphérie sur des corps périphériques, périphérisés, ben elle est venue, elle s'est exercée au centre de Paris, au centre de Lyon, etc. Ça a permis d'être visible, mais c'est ce que je disais, ce sont des choses qui se passent depuis des dizaines d'années, voire des centaines d'années, dans les régions périphérisées. Et quand je parle des banlieues des régions périphériques, j'inclus et les banlieues des grandes villes et l'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, etc. Et donc, quand je suis invitée sur des plateaux où la question c'est est-ce que la France est un pays raciste ou est-ce que la police française est raciste, je dis mais les gars, la question ne se pose pas. La police est une institution comme le sont les hôpitaux, comme le sont l'école, et quand on est dans un pays raciste, et je le dis, il va falloir qu'on apprenne à accepter le fait de la définition du racisme. Ici en France, les gens ont du mal quand on dit la France est raciste parce qu'on nous a appris que le racisme c'était le Ku Klux Klan, le racisme c'est Peter Botha et l'apartheid, le racisme c'est les corps noirs qui sont brûlés dans les écoles de Johannesburg ou qui pendent sur les arbres, le racisme c'est le Ku Klux Klan. Non, le racisme c'est un pays dont l'essor au début de la modernité européenne va se construire parce qu'un système racial va être mis en place, un système racial qui va être justifié par des pseudo-études scientifiques, Cuvier, Montandon, etc., qui vont mettre le blanc en haut, le noir en bas. Et à partir de là, toute une organisation sociale, scientifique, culturelle, du spectacle, va cohabiter pendant 300 ans pour justifier cette organisation raciale. À partir de là, la France est un pays raciste. Point. Donc là, je veux qu'on s'entende sur les termes. Donc, on ne peut pas être dans un pays raciste et avoir des institutions qui échappent à ce racisme. Absolument, la police française est raciste. D'accord ? Et maintenant, le problème, c'est que quand on le dit, les gens, mais non, moi, j'ai jamais tué de noir. Ben non, mais tu as profité d'un système qui est raciste. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc oui, la police est raciste et on peut remonter dans l'histoire de la police des Noirs 1777, qui est absolument...
Voilà, la police des Noirs, oui. C'est quelque chose que j'ai découvert relativement récemment, même si c'est un sujet qui m'intéresse. Est-ce que tu as des recommandations bibliographiques pour creuser sur ce sujet?
Bah, toutes les recommandations bibliographiques que j'ai, ce sont des études en anglais, parce que c'est en anglais, ou par rapport aux études caribéennes, parce que c'est quelque chose qui est absolument, qui est très étudié, surtout par exemple par rapport aux études haïtiennes. Je pense à Marlène Do, je pense à Kayama Glover, parce que ce sont les premiers, ils ont pensé la répression et... parler de la France noire sans parler d'Haïti. Ils ont pensé à la manière dont la répression de Saint-Domingue allait impacter le comportement de la France par rapport à ses citoyens noirs. Et donc moi, c'est lors d'un module sur des études haïtiennes que je découvre cette histoire d'une police des Noirs. C'était il y a une dizaine d'années, les dernières années de mon doctorat. Et comme d'habitude, voilà, les bras qui m'ont tombé. Comment on n'a jamais appris ça à l'école? Donc, et c'est pour ça aussi que voilà, moi, je pousse mes étudiants à se saisir, mes étudiants français en France, à se saisir de tous ces confettis de notre histoire qui sont là et qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas nous accuser d'inventer, parce que ça c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant. Après mon passage sur Mediapart, j'étais morte de rire des gens qui disaient mais qu'est-ce que c'est que ça, elle invente des trucs, on n'a jamais entendu, parce que c'est tellement gros, on se dit c'est gros et on n'en a jamais entendu parler, donc ça ne peut pas exister. Et c'est là, je pense que voilà, on a une génération qui a beaucoup de travail et qui a la chance d'avoir ces archives-là, et les choses vont sortir. C'est pour ça, même si c'est très dur, moi je garde beaucoup d'optimisme, je reste optimiste, parce qu'il y a ces histoires-là, ces travaux qui sont là. Et en français, il y a mon collègue Grégory Pierrot, de l'Université du Connecticut aussi, qui a travaillé sur la question, et donc voilà, je vous conseillerais de lire ses travaux. Grégory Pierrot, de l'Université du Connecticut. Et sinon, voilà, moi, tout ce que je connais par rapport à cette histoire-là, que ce soit Sue Peabody, Nathalie Etoké, ben, c'est en anglais. Et là, on se rend compte, mais du géant. Moi, je refuse de dire un monstre, mais je dis ça. Voilà. Pour nous, l'histoire a été pendant très longtemps un monstre qui a servi à nous dominer. Et ben, cette histoire-là, on va la transformer en gentil géant. Qu'on va dessiller bout par bout pour écrire notre histoire qui, voilà, s'est conjuguée en parallèle à l'histoire de ce pays.
Je voudrais qu'on revienne un peu à ta carrière. À quoi ça ressemble la vie en tant qu'enseignante à Carnegie Mellon, qui est une fac privée d'excellence?
Ben, c'est une vie assez complexe. Je dors très peu. Je dors 3-4 heures par nuit parce que j'ai plusieurs casquettes. Donc, je suis chercheur dans une université de recherche une. Donc, c'est all one. C'est le haut niveau de la recherche. Donc, j'ai un programme de recherche assez intensif que je complique moi-même à cause de mes diverses inclinations artistiques. Donc, je fais aussi de la photo, j'écris pour Slate, j'écris pour Jacobin. Donc, je ne me facilite pas la tâche, mais je suis heureuse parce que je travaille sur moi. Et ça, c'est extrêmement important. C'est égoïste, mais je travaille sur moi. Et j'ai dû apprendre à faire fi, voilà, de ce moule que notre éducation, que ce pays dans lequel on est enfermé, c'est de vivre par rapport au regard des autres, de mesurer sa valeur à l'aune de ce que les autres peuvent penser de vous, et se dire au début, mais je ne vais pas être prise au sérieux, je travaille sur le cheveu noir, je travaille sur le rire noir, je travaille sur les noirs, ça ne va pas être pris au sérieux, et maintenant je m'en fiche. Mais vraiment, alors excuse my French, parce que pour moi je travaille sur mes pères, sur mes mères, je travaille sur l'histoire de moi, de ma sœur, de mes amis, et ça c'est important. Et sinon, c'est un mode de vie. Oui, donc c'est une vie assez chargée parce que je vis la moitié du temps sur Paris, l'autre moitié du temps sur Pittsburgh, et donc un peu l'impression de n'avoir des racines nulle part, mais en fait l'impression de transporter un peu ses racines avec soi dans un petit pot, et pour l'instant ça me va. Et vraiment je veux encourager le maximum de personnes alors tout le monde ne sera pas chercheur, c'est vrai que c'est une vie assez monacale, ce n'est pas toujours très très intéressant, ça demande beaucoup de sacrifices, faire son doctorat, mais ce n'est pas si difficile que ça. Et moi je pense que on m'aurait dit que j'aurais fait un doctorat, j'aurais peut-être dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est ? Voilà, ce n'est pas l'Himalaya qu'on croit. Donc, moi, j'encourage souvent les gens à prendre contact avec moi. Et il y a beaucoup de choses, on nous a tellement peu encouragés à nous projeter dans ces rôles-là, que voilà, on pense que c'est des montagnes infranchissables, alors que non, il faut de la patience, et on en a. On a vraiment eu de la patience pour supporter toutes les choses qui nous arrivent ici. Donc voilà, moi, j'encourage vraiment les gens à prendre contact avec moi, comment ça se passe dans les universités françaises, dans les universités anglaises, dans les universités canadiennes, aux États-Unis, mais travailler sur nous, parce que personne ne le fera à notre place. Ça, c'est important.
Merci. Je voudrais qu'on aborde la question de la mal nommée discrimination positive. C'est Amandine Gay qui le faisait très bien remarquer, c'est problématique comme terme, parce que bien évidemment, tout le monde est contre la discrimination. Raconte-nous comment ça se passe chez vous, l'affirmative action.
Alors, moi, j'étais complètement ahurie, je me rappelle la première fois que j'ai entendu ça, parce que discrimination positive, c'est absolument dingue. C'est de partir... Alors, c'est d'autant plus dingue qu'on est dans un pays qui dit que l'égalité est de fait. Donc, on ne peut pas avoir de racisme parce que le mot race a été enlevé de presque tous nos documents officiels. On ne peut pas avoir de discrimination parce que l'universalisme est un preux chevalier qui a terrassé le monstre des inégalités, quelles qu'elles soient. Et puis, le peu d'inégalités qui restent, on a tout un système social, les allocations, etc., c'est complètement fou. Et à partir de là, donc, on part sur ça. Et puis on met dans la tête des gens que si des groupes se mettent ensemble en fonction de leur religion, de leur handicap, sexe, ethnie, etc., pour faire valoir quelque chose qui leur arriverait, qui serait spécifique, c'est du communautarisme. Donc on met ça dans la tête des gens pendant des décennies, et tout d'un coup, bop, on sort une loi en disant discrimination. Ben non, mais moi je comprends que le français moyen refuse ça, et puis personne n'a envie de se dire, parce que quand même en France, on a les gens ont avalé ce truc de l'égalité, au risque même de penser que les étrangers ont plus. On se rappelle le discours de Chirac avec voilà, l'immigré qui ramasse des dizaines de milliers d'euros en ne faisant rien, juste avec ses 200 enfants et ses 20 femmes. Et là, on dit, en plus de ça, ils vont avoir des trucs en plus parce qu'on considère qu'ils sont discriminés. C'est complètement ridicule. Moi, je pense que ça a été fait absolument exprès pour crisper encore plus les gens par rapport aux demandes absolument légitime qui était faite par plusieurs segments de cette population. Aux États-Unis, alors ça s'appelle affirmative action, et absolument c'est fait. Moi je suis dans une université où on a des quotas. Il nous faut un certain quota d'étudiants noirs, il faut un certain quota. Et par exemple, en ce moment, nous sommes en train d'embaucher des professeurs, et c'est absolument accepté. On sait que ce seront des professeurs issus de minorités. La question ne se pose même pas. Parce que, voilà, tout États-Unis que ça soit, tout problématique que ce pays soit, il y a aussi le pragmatisme. Et je pense que c'est ça qui manque aussi à la France, le pragmatisme de se dire, moi je vais t'expliquer par exemple, je fais des cours sur l'histoire très récente de la France, sur l'histoire raciale, ben, mes cours, ils sont toujours remplis, ils refusent du monde, parce que les étudiants, Verlaine, les macarons, ça va 2 secondes, et à un moment, ils ont envie de comprendre, mais qu'est-ce que Macron dit ? Mais pourquoi la France a brûlé en 2005 ? Mais c'est qui cette nana en afro qu'on a vue dans le Times ? Ils ont envie de comprendre la France de 2020, et pas la France qu'on leur a vendue, parce qu'ils ont compris qu'il y avait une carotte. Et ça, mon université, elle est pragmatique. Chaque étudiant qui prend un cours dans une unité, ben c'est des sous pour l'unité, et à partir de là, ben on veut embaucher des profs noirs, on veut embaucher des profs qui parlent de cette histoire-là, et ça ne choque presque personne. Alors de temps en temps, il y a des étudiants blancs en général qui vont porter plainte pour les universités en disant le fait qu'on accepte des étudiants issus des minorités font que leurs chances diminuent. Mais les étudiants blancs constituent encore et pour longtemps la majorité dans les universités américaines. Et ce qu'on voit, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne parle pas d'effacement. On ne refuse pas l'entrée des étudiants blancs. C'est juste qu'on va passer d'avoir des effectifs de 80% blancs dans certaines universités, 0,01% d'étudiants natives, les Indiens, moins de 2% d'étudiants noirs, à avoir, voilà, qu'on essaie de dépasser au moins la part des 5%. Donc on n'est pas là pour effacer l'entrée ou gâter les chances de la majorité d'entrer dans les universités, c'est essayer d'arriver à des chiffres qui ne soient pas insultants, comme on peut le voir dans certaines universités où certaines années, il y a zéro étudiant, par exemple, d'origine Indian native aux États-Unis.
Ok. J'ai vu que, j'ai regardé un petit peu, j'ai vu qu'en 2018, 4% des nouveaux admis à Carnegie sont afro-américains, alors que les afro-américains représentent 11% de la population de Pennsylvanie. Donc, il reste encore un peu de chemin à faire. C'était ma première réflexion. Ensuite, il y a quelque chose où j'avais entendu parler d'une différence entre des quotas chiffrés où on dit il nous faut une quantité précise de tel et tel groupe ethnique à ce qu'ils appellent les admissions holistiques où ils vont prendre en compte la composition, la diversité de la société dans laquelle ils sont et ne pas limiter le recrutement à des simples éléments académiques, mais aussi à ton milieu d'origine, à tes activités extrascolaires, etc.
Pour moi, la question raciale aux États-Unis est tellement complexe que ce serait très difficile de donner une réponse unidimensionnelle à cette question. Il y a tellement, on le voit, il y a des villes comme Atlanta qui sont qu'on appelle des mecs de la communauté noire ou comme la Nouvelle-Orléans où une certaine bourgeoisie noire a pu se développer, mais ce sont aussi les villes où la violence contre les populations noires pauvres sont les plus criantes. Donc il y a cette c'est juste pour montrer à quel point le triomphe économique n'efface pas les héritages de ce que c'est d'être noir aux États-Unis et surtout noir américain, parce que il y a aussi la question qu'on doit se poser de qu'est-ce qu'être noir aujourd'hui. On le sait, un enfant de d'immigré africain ou d'un enfant d'immigré caribéen n'a pas les mêmes a maintes fois plus de chances de réussir, de se retrouver à l'université, d'atteindre même la classe moyenne qu'un enfant noir américain. Et on le voit avec les remous qu'il y a eu au début de la candidature de Kamala Harris, que beaucoup de Noirs américains dont ils ne voulaient pas, en se disant elle est caribéenne, elle ne connaît pas, elle ne sait pas ce que c'est d'être Noir américain parce qu'elle a toujours eu cet avantage d'être caribéen. Les immigrés caribéens ou africains sont mieux considérés que nous. Donc aussi, ça pose la question de complexifier qu'est-ce qu'être Noir. Moi, je le vois dans mon université, je n'ai aucun mal à en parler, la majeure partie des étudiants Noirs non américains sont Nigériens, qui viennent soit du Nigérien, soit de famille nigériane-américaine. Et on le sait, les Nigérians sont aux États-Unis sont la portion de population, tout groupe ethnique confondu, hein, blanc, indien, chinois, la plus éduquée. Les Nigérians-américains, c'est la population ethnique, le groupe ethnique le plus éduqué. Ils sont tous ingénieurs, etc. Donc ça pose aussi la question lorsque les universités font ces actions qui sont souvent, alors moi je ne veux pas être pessimiste, mais on sait que souvent ce sont des effets d'annonce, comme on a pu le voir après la mort de George Floyd, où toutes les universités se sont mises un peu à faire leur mea culpa, et ça ne se limite pas seulement au monde universitaire, on le voit aussi avec les grandes entreprises, tout le monde veut maintenant son deuxième CEO noir, tout le monde veut son quota de noir dans les grandes instances, c'est bien. Moi je le dis, je suis assez méfiante, mais il faut prendre. Les choses sont tellement catastrophiques qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre tout en étant extrêmement méfiante. Donc voilà, et que chacun fasse un peu dans son coin. Et moi, ce qui me concerne dans mon université, c'est essayer d'être vigilante. Et lorsqu'on dit qu'on va ouvrir l'université à des étudiants noirs, s'assurer que ça ne soit pas 50 étudiants nigérians ou d'Afrique du Sud qui soient tous fils de ministres venus d'Afrique du Sud et qui nous permettraient de cocher la case noire, alors que il y a des étudiants noirs américains qui pourraient remplir ces quotas. Donc c'est très compliqué, ça demande de rentrer aussi, de tirer aussi bien les fils de l'histoire que les fils de notre monde contemporain et d'être beaucoup plus complexe dans la manière dont on joue avec les termes et dont on joue avec les vies que de se dire discrimination positive et puis se perdre comme on a pu le faire en France sous Nicolas Sarkozy sous des débats qui étaient d'une indigence absolument lamentable.
Alors depuis cette conversation, enregistrée en décembre 2020, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu notamment un article bilingue du New York Times intitulé « Les idées américaines menacent-elles la cohésion française ?» Ce texte expose la mauvaise foi avec laquelle une grande partie du monde politique et médiatique rejette toute critique du modèle français. Et puis surtout, il y a eu les propos de Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, au sujet de l'université française gangrénée par l'islamo-gauchisme. Un concept gazeux qui discrédite les travaux des chercheurs et stigmatise l'islam, une fois de plus. On n'est pas sorti de l'auberge. Dans la deuxième partie, Mam Fatou nous expliquera pourquoi, selon elle, il n'y a pas vraiment de communauté noire en France, tout en se confiant sur son identité afro-française et son rapport à Paris. Le Paris Noir a été réalisé par moi-même, Kevin Donna. Le générique vient du morceau Stripes de Maddy Juwan et l'identité graphique est l'œuvre de Megan Fabre. On revient donc dans quelques jours avec la suite de l'entretien. D'ici là, prenez soin de vous, restez hydratés, faites pleuvoir les étoiles et les commentaires. Sur les réseaux sociaux, c'est toujours @leparisnoir. Je vais essayer d'être plus présent sur Instagram, dans les stories. Je vais être plus consistant dans les prochaines semaines, promis. Je ne sais pas quand reprend le chip, je ne sais pas quand reprennent les balades en ville, mais les visites en ligne continuent. Donc si vous voulez en être, les balades en ligne, envoyez-nous un mail, leparisnoir@gmail.com. À très vite.
Et qui voit sur le palier à côté de son HLM, entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela...